Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vacarme en réunion.
Vacarme en réunion,
ce n'est pas une émission de radio. C'est un puits, un espace d'apparition. C'est un iceberg, un exercice de perception. Un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Paris, 1925. Tous les matins, un jeune homme de 20 ans d'allure bourgeoise part travailler vers le quartier populaire de Barbès. C'est dans le métro parisien que Daniel Guérin découvre son attirance pour les jeunes ouvriers.
Les trajets en métro de Saint-Michel à Barbès m'exposaient à une surabondance de tentations. C'est ainsi que, poussé à bout, j'osais solliciter et j'obtins presque aussitôt les faveurs d'un jeune ouvrier. Ma liaison avec Robert ouvrit toutes les vannes. Je devins coureur, dragueur, comme on dit aujourd'hui. Mon propos n'était pas seulement d'ordre sentimental. Il y entrait déjà un appétit de transgression sociale. Je lançais un défi à ma classe.
En 1925, à son retour du service militaire, sa dissidence sexuelle et son dégoût de l'hypocrisie bourgeoise le poussent à s'éloigner des siens. C'est alors qu'il décide de travailler dans une librairie du quartier Barbès et de vivre son homosexualité avec de jeunes prolétaires.
Et c'est de ce contact avec la classe ouvrière que j'ai découvert les conditions d'existence, de vie, de mentalité de la classe ouvrière. C'est là, c'est au lit avec eux que j'ai découvert la classe ouvrière, beaucoup plus que par les traités marxistes ou proudhoniens, etc.
Salut, bienvenue dans Vacarme en Réunion. Aujourd'hui, on voulait vous parler, faire une émission sur le désir, la sexualité et la révolution. Notamment à travers la figure et le parcours de Daniel Guérin, donc qu'on vient d'entendre là, mais quand il est un peu âgé, quand il a quelques 80 ans. Ce Daniel Guérin, il est finalement assez connu pour pas mal de ses travaux en politique sur le mouvement politique, enfin sur le mouvement révolutionnaire. C'est une figure assez importante du XXe siècle. Notamment, voilà, il a écrit plein de bouquins donc sur la condition noire, l'anarchisme, le communisme, l'ouvriérisme. Voilà, plein de choses, plein de problématiques politiques du XXe siècle qui traversent le XXe siècle. Et c'est notamment la figure de proue de la construction d'un discours politique sur l'homosexualité au XXe siècle. Et voilà, on voulait parler de ça, notamment à travers la réédition par les éditions de La Fabrique en septembre là, de 2016. Un écrit qu'il a intitulé « Autobiographie d'une jeunesse », qui est un geste particulier dans la construction de ce discours homosexuel en France, qui vient ouvrir tout d'un coup une fenêtre assez folle et qui permettra à l'homosexualité de se revendiquer d'une certaine manière. Bon, on le rentrera après dans les détails, mais c'est dans les années fin 60 qu'en sort cette autobiographie, une découverte assez bluffante, un discours qui porte le désir comme moteur d'une pratique et d'une pensée révolutionnaire. Voilà, c'était un peu notre objectif aujourd'hui. Donc c'est Cyrielle qui est en studio. Salut.
Salut. Et c'est quoi, on va revenir sur Autobiographie d'une jeunesse. Tu vas nous expliquer un peu mieux ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et entre autres, qu'est-ce que toi t'en avais trouvé de particulièrement intéressant.
Ouais, mais d'abord ça, on lit ou pas du tout?
Bah si tu veux.
Et ben peut-être lis un peu comme ça. Donc voilà, c'est Autobiographie d'une jeunesse qui est paru entre 65 et 69 en France.
Je ne reniais pas, je ne profanais pas mon socialisme quand j'exaltais le phallisme. Mon socialisme et mon phallisme, en effet, lorsque j'y songeais davantage, n'étaient pas antinomiques. À vrai dire, je n'avais pas à choisir entre les deux. Leur profonde synthèse avait fini par former la substance de mon être. Car j'étais venu au socialisme par le phallisme. Ce ne furent pas la pitié, la fraternité débordant de mon cœur, ce ne fut pas la lecture des théoriciens, entreprise beaucoup plus tard, éclairante comme une ablation de la cataracte, non plus qu'une injustice sociale ressentie dans ma propre chair qui avait fait de moi un socialiste. Mais d'avoir, de bonne heure, recherché la compagnie des jeunes prolos, tiré avec eux dans les fêtes foraines, porté avec eux le lourd sac de camping, déambulé avec eux sur les routes, fondé avec eux les auberges de jeunesse, pris avec eux des trains sans billets, clapoté avec eux dans les piscines, ou musardé sous la douche, tiède, descendu les rivières à la nage, hissé avec eux la voile et affronté la tempête. cuisiner pour le rude capitaine au gouvernail, gueuler avec eux dans les combats de boxe, soulever avec eux des haltères, glisser face à face, à la force des poignets, sur des barres parallèles, soigner leur nez saignant, leur estafilade, leur avarie et leurs entorses, nouer avec eux des liens plus intimes que ne l'eussent été ceux de l'atelier ou de l'échafaudage, avoir dormi sur l'élastique matelas de leurs muscles, respirer leur odeur virile, s'être frotté contre la brosse de leur manteau, avoir attendu patiemment leur retour du bal et leur rassurante présence pour glisser dans le sommeil, les avoir entendus, tant de fois, pester contre le boulot, contre le pointeau, contre l'hosto, contre le proprio, avoir sondé le vide de leur poche ou de leur portefeuille, avoir admiré leur instinct de classe, leur robuste bon sens, leur merveilleuse faculté d'adaptation au monde, leur ingéniosité combinarde, leur gaieté invincible au dépit d'une chienne de vie. Et quand j'avais commencé à militer, ça avait été pour moi une joie toujours renouvelée de côtoyer dans les meetings les constructeurs, plus tard éternisés par Fernand Léger, les superbes terrassiers à la large pantalon de velours, nobles et basanés, espèces aujourd'hui perdues, éliminées par la machine, et les jeunes métallos aux paletots de cuir, aux ongles noirs, à la casquette aguicheuse et fière, coiffure aujourd'hui perdue, tuée par l'embourgeoisement général. Et quand j'avais à monter à la tribune, à haranguer les foules, c'était la présence toute proche, perceptible, des plus masculins, des plus robustes des jeunes gars, qui me chargeaient d'électricité, qui m'inspiraient, à moi qui passais pour un intellectuel, des moyens d'expression rude, charnelle, issus des entrailles et remuant les tripes. Et puis le monde des jeunes mâles était un monde créateur. Leurs bras noueux labouraient la glèbe, pétrissaient le pain, découpaient la viande, gouvernaient les poids lourds ou les navires, majestueux porteurs de denrées, bâtissaient les demeures, sciaient le bois, cousaient le cuir, hissaient les interminables filets, attaquaient au marteau-piqueur la roche ou le charbon. Ma promiscuité avec eux me plaçait au centre de l'atelier humain. En les fréquentant, je croyais, à tort ou à raison, avoir la meilleure part. Tandis que les uns se distrayaient et parfois même s'endormaient dans les délices de Capou, j'apprenais, moi, avec les jeunes travailleurs, le sérieux de la vie. Je découvrais en leur compagnie les importants mystères de l'homo economicus. Quand je me prélassais parmi les miens, j'étais pris soudain de l'envie de détruire, de bazarder, ou tout au moins de refuser pour moi les trésors de leur vaine culture. Et à l'appel d'une horloge lointaine, de filer, de nuit, comme un malfaiteur, par le toit du garage, de descendre 4 à 4 l'échelle métallique scellée dans le mur, de laisser les miens à leur ronron de satisfaction, de dévaler la pente qui menait à la Ciotat pour y rejoindre des gars frustres, qui n'avaient que faire de moi, sans besoin esthétique et spirituel, sans luxe et sans chiquet, sans cravate et sans manière, mais réels et charnels, eux, dans leurs gros chandails, leurs blousons de cuir épais, leurs falzards sans plis, leurs bistrots tapageurs et où sévissait la belote, la télé, le PMU. Et leur prestance qui surclassait ceux d'en haut, et leur façon de former des groupes au coin des rues, jusqu'au beau milieu de la chaussée, de vivre en grappe les uns contre les autres, de se complaire dans un chaud cercle d'hommes, où la femme, objet des conversations vantardes, était à peu près absente, de s'interpeller à distance, de se prendre le bras, de se taper sur l'épaule, de s'offrir tournée sur tournée, et, les temps n'étant pas encore venus d'une culture issue de tous, accessible à tous, l'aptitude de la plupart à se passer royalement de livres, à ne se point laisser incommoder par les idées, à supporter allègrement la privation d'émotions artistiques, à écorcher savoureusement la prétentieuse et fade langue écrite, en comparaison de quoi la maison d'en haut prenait figure de lieu désert, artificiel et morne, de tour d'ivoire, de monde où l'on s'ennuie.
Voilà, donc c'est un des passages du bouquin de Autobiographie d'une jeunesse. Alors peut-être, je reviens sur Daniel Guérin, donc ce personnage un peu particulier du XXe siècle. Donc il naît en 1904. Voilà, son autobiographie commence sur. Il y a toute une longue partie de l'autobiographie, environ 200 pages, où il pose comme le contexte un peu de d'où il vient, et de comment il en vient à un moment trahir sa classe, comme il le dit là, comme on l'entend dans. Donc il commence sa vie en 1904, donc il a 10 ans en 1914, il vit 14-18 à travers, pour lui, donc il a que 10 ans, donc la légèreté, le bonheur de son espèce de vie de grand bourgeois, parce qu'il est donc issu d'une famille de grands bourgeois parisiens, qui habite sur la rive gauche, ils ont des hôtels particuliers à eux, enfin, bon, là, c'est tout un espèce de confort de vie, une manière de vivre de loin de tout, quoi, perdu dans son confort et dans sa famille renfermée sur elle-même, et au contact de peu de choses que de luxe et de douceur et d'art, d'objets d'art. de livres, de bon, c'est ce qu'il raconte, quoi. Ça, tout lui devient un peu insupportable dans ce contexte-là. Et au fur et à mesure de sa vie, effectivement, il raconte qu'il est un gamin complètement exécrable, qu'il peut pas voir sa mère. Enfin, il s'engueule avec ses parents, etc. Et il part à un moment au service militaire, et à ce moment-là, il se rend compte effectivement du bienfait que ça fait, une espèce de rigueur, une espèce de qui lui permet de s'oublier à lui-même, des choses qu'on s'impose, des normes qui sont les mêmes pour tout le monde, qui le fait s'oublier complètement de son petit individu qu'il plombe depuis tout un moment. Il arrive à s'en extraire à ce moment-là, et notamment puisqu'il est au milieu d'immenses dortoirs de garçons, et que voilà, tout d'un coup il se met à ne plus être dans sa posture de supériorité de par sa classe bourgeoise, mais à tout d'un coup être au même rang et avec des pères, quoi, avec des personnages semblables, avec des gens qui sont comme lui, quoi. Et voilà, il se met à complètement prendre plaisir à ça. Parce que jusqu'alors, pendant une vingtaine d'années, je crois que c'est en 24, voilà, qu'il part au service militaire. Pendant une vingtaine d'années, il est complètement, il a pas à travailler, on lui fait la bouffe, il a une bonne, il a des servants, il est coincé là-dedans. Et c'est ce qui va à un moment l'amener effectivement à déserter, à trahir sa classe, c'est à sortir de cette espèce de carcan là supérieur, et à se mettre à rejoindre les gens qui sont ses semblables. Voilà, du coup c'est à travers le service militaire, et puis après il se met à partir au Liban. Il travaille dans une librairie, puis il se met à partir au Liban pour bosser dans cette librairie au Liban. À ce moment-là, c'est sous mandat français, le Liban. Et il se met aussi à comprendre qu'il appartient aussi à la race des colons qui envahissent tout le Moyen-Orient. Et c'est à travers l'expérience au Liban, et à travers l'expérience... Après le Liban, il part en Indochine. À ce moment-là, on appelle ça encore l'Indochine. Et là, il comprend qu'en fait, en plus de faire partie de la classe, de la classe supérieure française, etc., il fait partie de la race des colons qui exploite et torture et viole et tue toute une partie de gens, dont les gens qui le rendent absolument... Enfin, qui l'apprécient très fortement, des gars, des ouvriers, etc., etc. Et donc, il se met à vouloir déserter et sa classe et sa race de colons.
Mais du coup, lui, c'est pas quelqu'un qui a reçu une formation, enfin, comme on disait à l'époque, une formation politique marxiste ou quelque chose comme ça?
Non, pas du tout. C'est au contact, justement, de ces gens-là qu'il se met... c'est parce qu'il a envie, tout d'un coup, de rencontrer et de vivre avec les ouvriers et les gens qui sont pas de sa classe. Parce qu'il aime, tout simplement parce qu'il aime... Mais c'est ce qu'il dit là, dans ce qu'on vient de dire.
C'est ce qu'on entend au début, c'est qu'il croise des gens dans le métro qui le fascinent un peu. Et,
voilà, il est complètement fan, mais... voilà, c'est du désir, quoi, c'est du sensible. Il est fan de ces gens, de leur corps, des corps des ouvriers, etc. Il va les rencontrer, et en les rencontrant, il se rend compte effectivement de pas mal de choses, donc de sa classe de privilégiés, et après, en rencontrant les ouvriers, enfin les classes populaires des milieux du Moyen-Orient, enfin voilà, des pays colonisés. Et donc il se met à effectivement à rencontrer comme ça ces personnes-là, ces classes-là, ces problématiques politiques-là, et à se politiser par ce biais-là, quoi. Est-ce que tu veux lire le deuxième passage, peut-être ?
Mais, si elle s'appuyait sur de vastes lectures, ma mue en direction du socialisme n'était pas objective, d'ordre intellectuel. Elle était bien plutôt subjective, physique, issue des sens et du cœur. Ce n'était pas dans les livres, c'était en moi d'abord, à travers les années de frustration sexuelle, et c'était au contact de jeunes opprimés que j'avais appris à haïr l'ordre établi. La quête charnelle m'avait délivré de la ségrégation sociale. Au-delà des beaux torses durcis par l'effort et des pantalons de velours, j'avais recherché la camaraderie. C'était elle que j'espérais retrouver au centuple dans le socialisme, une fraternité virile, comme virile est la révolution. Un soir, seul, à l'avant du cargo, dont la proue fendait la mer rouge, sous l'escorte d'inoffensifs et bondissants marsouins, la métamorphose plus ou moins inconsciente fit, soudain, place à un calcul très conscient. La nature, ma nature, m'avait obéré d'une très forte et très particulière passion. Sans peine d'être dévoré par elle, il me fallait la capter, comme d'autres ont essayé de transformer la marée en source d'énergie. En somme, sans le savoir, je plagiais le bonhomme Fourier, qui, ne réprouvant aucune passion, voulait qu'aucune ne fût proscrite, mais qu'on les laissât jouer librement pour les faire servir à la future société d'harmonie, et qui entrevoyait pour la plus mal famée d'entre elles la luxure, des emplois de la plus haute utilité. Je résolus d'employer ma forme particulière d'érotisme, jusqu'alors incontrôlée, gaspillée, plus ou moins asociale, et de la subordonner aux fins les plus hautes, la libération de tous, qui serait, en même temps, la mienne. Ceux dont l'adhésion au socialisme a emprunté des voies différentes ont eu quelque peine à admettre les miennes. Ils ont cru, comme si l'on pouvait couper un homme en deux, de voir rendre service à l'auteur de « Fascisme et grand capital » en faisant silence sur le présent essai. Pourtant, c'est à ce substratum charnel que je dois la solidité de mes convictions. Rien ne pourra jamais les déraciner, parce qu'elles ont surgi des profondeurs viscérales de mon être. Non, le milieu que je désertais, ce n'était pas à travers des livres que j'avais appris à le haïr. Au-delà du cercle étroit de mes proches, dont j'ai plaidé les circonstances atténuantes assez rares en milieu bourgeois, je connaissais trop bien la classe plus large, où prédominaient les mufles, les imbéciles et les repus. Je les avais vus de trop près à table, au bal et au fumoir. J'avais recueilli de leur bouche des propos autoritaires, haineux, bornés, aveugles, et, quand les affolait la peur, hystériques. Leur fréquentation fit de moi un révolutionnaire, non un réformiste. Je savais quant à moi, pour avoir été des leurs, qu'il n'y avait rien à attendre d'eux.
C'est ça qui nous faisait un moment tomber sous le charme de cette autobiographie, c'est que donc il passe 200 pages à raconter voilà le carcan absolument insupportable dans lequel il naît puis il évolue les 20 premières années de sa vie et après la rencontre de par la mobilisation de son désir à des fins révolutionnaires avec toute une problématique plus politique et donc plus militante et c'est ça qui l'amène à tracer sa vie dans ce sens-là d'un combat et d'une lutte politique. Et moi, je trouvais ça assez kiffant de tout d'un coup d'entendre ça, de le lire parce qu'on entend assez peu ça quoi. Souvent, on nous dit voilà, je sais pas, je viens à la politique parce que je sais pas, j'étais victime de je sais pas quoi, d'injustice, de trucs, de machin ou parce que j'ai bon. Alors lui, évidemment, il dit
et
la rêve.
Souvent parce que j'ai lu et que ou j'ai écouté ou j'ai réfléchi, ouais. J'ai vu, je culpabilise, je rationalise, etc.
Ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Et là, lui, juste, il dit, je kiffais les gars, je kiffais leur corps, et tout d'un coup, je me suis mis à les rencontrer, puis à partager tout ça. Alors, il dit bien qu'à un moment, donc ça, comment dire ça, le moment où il passe le pas, parce qu'il a tout un moment où il n'arrive pas du tout à rencontrer les gars, etc. Le moment où il passe le pas, là, il se met à enchaîner les gars. Tout d'un coup, il a compris que c'était super simple, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est de tenter la chose. Une fois que tu sais comment tu tentes la chose et que tu donnes un peu de légèreté à ça, ben voilà, c'est très simple de rencontrer des gars. Donc, il parle de comment, dans les années 30, avec une certaine nostalgie d'ailleurs, dans les années 30, il est possible d'aller capter des ouvriers, puis de leur dire, enfin, voilà, des gens, n'importe qui, des prolos dans la rue, des gens, et de leur dire, vas-y, viens, on va ensemble, bon, voilà, faire notre affaire. Et là, il se met à consommer comme ça plein de gars. Enfin, c'est les mots un peu que lui, il utilise. Et tout d'un coup, à plus très bien savoir, il se perd un peu là-dedans. C'est là où il dit, sur le bateau, donc, qui le mène à l'Indochine, le Bangkok, ce bateau qui s'appelle le Bangkok, il se met à vouloir orienter la puissance de son désir, et non pas juste à entretenir de manière un peu stérile la quête charnelle, enfin, son propre désir pour le désir, enfin, voilà, mais plutôt à servir un désir révolutionnaire. Et voilà, moi, c'est ça que tout d'un coup, je trouvais puissant, c'est-à-dire comment à un moment on peut orienter les désirs, nos désirs, qu'ils soient sexuels aussi, pour les orienter dans une fin révolutionnaire.
Mais pour lui, ça veut dire quoi, du coup, par exemple ? Enfin, peut-être tu vas expliquer après dans son parcours, mais ça veut dire quoi, orienter un désir à une fin révolutionnaire ?
Eh ben, c'est-à-dire que tout d'un coup, il se met à plus dire seulement « je vais côtoyer ces gens et user de leur corps juste pour mon propre plaisir, mais je vais me plonger avec eux dans les problématiques qui sont les leurs de lutte des classes ». Alors, au début, ça passe pas mal par ce prisme-là, quoi, de la classe prolétaire. Donc, il se met à lutter auprès des syndicalistes révolutionnaires, des socialistes de gauche, des sympathisants trotskistes. Et puis après, il arrive au communisme libertaire. C'est lui, d'ailleurs, qui fait la synthèse entre le marxisme et l'anarchisme en créant cette espèce de catégorie, là, communisme libertaire. Bon. Mais voilà, au départ, il part d'une mise au service de son énergie, de sa vie, à la lutte avec les gens qui kiffent, quoi, avec ses semblables, quoi, donc les gens, les prolos, quoi, les ouvriers, enfin, en tout cas, vers qui il veut se rapprocher, donc les prolos, les ouvriers.
1936, c'est le Front populaire. En avril et mai, les partis de gauche ont gagné les élections. Ils sont aussitôt débordés par une grève générale spontanée, la plus importante qu'ait connue le pays avec occupation des entreprises. Daniel Guérin a maintenant 32 ans. Le fils de grands bourgeois, le poète de la 18e année, est devenu militant de la CGT.
Je me trouvais être le secrétaire du comité intersyndical d'une localité de la banlieue parisienne qui était Les Lilas. Et tout de suite, je me suis trouvé à la tête d'une immense masse de gens. Tous les matins, on me réveillait vers 7h, 6h. Daniel Guérin, il faut venir tout de suite, il y a une nouvelle usine qui a débrayé, il faut accourir, il faut venir, il faut négocier avec les patrons, etc. Comme à ce moment-là, la CGT était entièrement débordée par la masse des grèves et aucun responsable de fédération syndicale n'était à même de venir au Lila pour régler un problème. Si bien que j'avais à régler seul, avec les travailleurs d'un côté et le patron de l'autre, la plupart de ces grèves. Et je les réglais finalement par des satisfactions non pas totales, mais assez importantes qu'obtenaient les ouvriers et qui ensuite se terminaient par de joyeuses beuveries et aussi par des actes de solidarité. Nous prenions des voitures à bras et nous emportions la bouffe qui restait de la célébration précédente dans une autre boîte qui elle-même devait être débrayée à son tour. Il y avait deux fronts populaires. Il y avait un front populaire au sommet qui était une alliance plus ou moins boiteuse entre socialistes, communistes et radicaux. Puis à la base, il y avait un mouvement de millions d'hommes qui voulaient changer la société. Et personne n'osait empêcher l'occupation d'usines ou ordonner l'évacuation d'une usine occupée. Nous étions les maîtres.
Et puis au fur et à mesure, il va se mettre à lutter de manière beaucoup plus large. Et donc, par exemple, sa rencontre avec la question coloniale d'Indochine, elle va être hyper décisive dans sa vie. Ça va être un des premiers à lutter auprès des militants nationalistes en Algérie, dans plein de colonies françaises.
Le combat de Daniel Guérin en faveur des nationalistes algériens date des années 30. Dès cette époque, il avait fait la connaissance de leur leader d'alors, Messali Hadj.
Leur but, c'était l'indépendance de l'Algérie, dès le début. Et c'est là, évidemment, où ils étaient des pionniers. Moi, j'étais aussi, dès cette époque-là, et je le disais et je l'écrivais, pour l'indépendance de l'Algérie. J'étais un des premiers Français à dire le but de l'Algérie, c'est l'indépendance. Et Messali Hadj a été complètement débordé, dépassé par les jeunes loups du FLN qui ont voulu, au fond, une lutte de génération dans une certaine mesure, ils ont voulu supplanter Messali et devancer Messali pour faire l'insurrection. Et Messali en a été horripilé et par conséquent n'a pas voulu marcher avec le FLN et a créé un MNA, Mouvement National Algérien, qui était différent du FLN. Et alors a commencé une longue bataille entre FLN et MNA qui aboutit à des massacres réciproques, le MNA tuant des FLN et FLN tuant des MNA, et ça se passait ça sur le sol français la plupart du temps. Alors là, ma position était extrêmement pénible et délicate, et j'étais à cheval entre les deux, parce que je n'ai jamais été contre le FLN. J'ai simplement trouvé que certaines de ses méthodes étaient barbares, et que son autoritarisme et son militarisme FLN étaient des choses que je ne pouvais pas accepter étant donné mes convictions politiques.
Et un des premiers à défendre la cause des Noirs aussi, et à rallier tout ça, à faire la synthèse de toutes ces problématiques politiques, en disant que la liberté pour les personnes qui sont noires ou qui sont colonisées, elle est la même que la liberté pour, par exemple, les homosexuels qui n'ont pas de droit. Enfin, voilà. Et ça, ça va être un peu la synthèse de tout ça qui donne un peu de puissance aussi à son propos. Ok, il nous intéressait de parler de Daniel Guérin aussi parce que par rapport justement à toute la construction d'un discours sur l'homosexualité en France, il est assez important, il fait figure de proue à cet endroit-là, notamment parce que Donc, ben, c'est ce qu'on a déjà un peu vu là, quoi. Il vient aux questions politiques de par sa dissidence sexuelle, comme il dit ça. Il passe d'une dissidence sexuelle qui l'amène à une dissidence de classe et une dissidence sociale. En fait, Guérin, il incarne biographiquement et intellectuellement le passage d'un univers d'un discours homosexuel à un autre, parce qu'il, donc, à partir des années 50, il va se mettre à participer à cette revue Arcadie, hein, qui est aussi un club, mais c'est une revue Arcadie, s'il veut être une transmission d'une parole homophile, c'est-à-dire pas forcément homosexuelle, mais homophile, c'est-à-dire des personnes qui aiment les garçons, mais aussi qui plutôt aiment partager des moments de sociabilité avec des gars, etc. C'est pas forcément que des gens qui sont sexuellement attirés par les garçons, mais c'est voilà. Donc cette revue-là, elle se fait le relais d'une parole autour de ces questions-là, mais c'est très tolérant, c'est très léché, très discret. Voilà, quand tu adhères à cette revue, tu dois avoir un comportement correct, on te demande d'avoir un comportement correct. Voilà. Donc c'est plutôt une sorte de discours légaliste autour de la question homosexuelle, donc qui aussi s'attelle à publier des rapports scientifiques, sociologiques sur la question de l'homosexualité, etc. Bon, pour faire bouger les lignes, mais de manière voilà, assez réformiste et légaliste. Et
dans le discours ambiant, quoi.
Dans le discours ambiant.
Du discours légitime ouais. Hétérosexuel, je sais pas comment on peut dire. Ben, pour démontrer que l'homosexualité serait légitime ou
oui, voilà,
existe,
voilà.
Etc.
Quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est donc la période des années 50 à 60. Guérin, il passe plein de temps à ça, mais à partir de 60, il passe plus à la construction d'un discours révolutionnaire autour de la question homosexuelle. Et voilà, il fait ce passage de la discrétion, entre guillemets, avec Arcadie, à la politisation franche à partir des années 60. Et à partir des années 60, il milite pour faire reconnaître la pratique homo comme n'étant pas une perversion morale ou une maladie psychologique. Et ça, donc, il le fait aussi, lui, à travers autour des développements scientifiques, sociologiques, juridiques, machin. Donc c'est là où, dans les années 58, sort le rapport Kinsey, qui est un rapport des États-Unis, et qui se met, comment dire, à rendre effectivement assez normal, en fait, la question de l'homosexualité. Une étude sociologique qui dit qu'il y a plein de gars qui pratiquent ça, que c'est dans les mœurs, il n'y a aucun problème à ça. Et lui, donc, il passe plein de temps à faire ça, à faire des conférences, etc., à aller se mettre à divulguer cette parole-là. Et il opère avec l'autobiographie d'une jeunesse un changement de par la position qu'il a, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec la sortie de ce bouquin-là, il se met plus seulement à faire à s'appuyer sur des discours scientifiques et sociologiques, etc., pour démontrer son propos, mais à sortir lui-même sa propre histoire par écrit, son cas individuel, et à recourir à des arguments plus liés à l'émotion et à l'insincérité à travers l'exposé de son cas individuel, quoi. Et ça, c'est un passage qui est intéressant, parce que tout d'un coup, il se met à faire exister une parole beaucoup plus franche, beaucoup plus libre autour des pratiques homosexuelles, autour de ses désirs, et qui s'inscrit dans les années 60 qui vont aboutir à 68 et à la révolte des désirs, quoi. Enfin, et ça, ça achève sa réflexion sur la libération des corps du néo-puritanisme, comme il appelle ça, en rabattant la révolution sexuelle sur la révolution sociale.
J'ai l'impression que c'est un renversement qui se passe dans plein de luttes. Enfin, en l'occurrence, dans la lutte des femmes, c'est aussi ce qui se passe à cette époque-là, qui est une espèce de renversement de point de vue. C'est-à-dire qu'on ne se place plus du point de vue de la société ou du point de vue majoritaire dominant, en essayant de démontrer que les minorités, elles sont là, mais qu'elles peuvent exister, c'est légitime, ouais, de les faire exister. Regardez, elles ont des courbes, elles sont tout à fait normales, tout va bien, etc. Ouais. Mais on se place du point de vue de la minorité en disant c'est la société qui va mal, quoi. Enfin, c'est voilà, il y a tout ce truc de dire ce ne sont pas les femmes qui posent problème à la société, c'est la société qui pose problème aux femmes, par exemple dans le mouvement des femmes, quoi.
Ouais, et tout d'un coup passer de plus forcément revendiquer, essayer de
ça fait scission avec une politique d'intégration, quoi.
Ouais.
Et d'émancipation et de droit, etc. Enfin, non, bon, scission, c'est évidemment très proche de tout ça, quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que qualitativement, la manière de parler de tout ça, elle change, on utilise d'autres mots. Et c'est aussi sûrement, et ça va avec le fait de parler de soi et non pas de parler à travers les discours très froids de l'économie, de la sociologie, etc., mais de commencer à dire mais en fait c'est moi, j'assume mon désir et c'est vous qui me posez problème, quoi.
Et ouais, et ben voilà, c'est ça effectivement qu'il opère lui aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il fait converger donc ses réflexions sur le socialisme révolutionnaire et les questions d'homosexualité qui jusque-là étaient contiguës chez lui. Il le dit bien, quoi, qu'il est venu au socialisme révolutionnaire, etc., par le désir, mais en même temps, il n'a jamais. Tous ses premiers bouquins, là, jusqu'à son autobiographie, sont. Il évoque la question, mais de manière assez voilée, il est voilà, tout en discrétion. Et là, tout d'un coup, il se met à revendiquer ça de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus claire, et à donc rallier sur le même plan la question de la révolution sociale et la question de la révolution sexuelle. Et c'est ça qui est effectivement super riche à ce moment-là. À cette époque-là, en France et partout dans le monde, c'est que ces questions-là deviennent entremêlées complètement. Et voilà, lui dit « La critique révolutionnaire du régime bourgeois ne veut pas sans révolutionner les mœurs. » Et il va donc arriver jusque-là à s'engager auprès du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, à faire partie de ça et puis après à en opérer un dépassement, mais peut-être on le verra après. Mais voilà, en tout cas, des années 50 à 70, il opère un espèce de changement de son discours dans lui-même, la manière de s'emparer de cette question homosexuelle, et jusqu'à la faire émerger et à la faire coller complètement à la question révolutionnaire. C'est ce que va faire le FAR aussi.
On a un petit extrait d'une dizaine de minutes qui est extrait d'un documentaire de Carole Roussopoulos qu'elle a réalisé à propos du FAR. Donc ça date de, je sais pas, des années 70, quoi, début des années 70, je dirais. Vous pouvez écouter ça. Ça se passe dans une assemblée générale, dans une fac. Et voilà, un débat ouvert dans une faculté de philosophie où il y a des membres du FAR qui racontent et qui expliquent leur position et leurs désirs.
Chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin, pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les rues au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. Et justement, nous nous sommes demandé pourquoi on nous refusait ce contact, pourquoi nous ne pouvions pas parler avec les gens. Évidemment, l'habitude de ne pas parler faisait que nous n'y arrivions pas, d'ailleurs, au début. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer, et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés? C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Le FAR, c'est toutes ces idées-là, d'abord, qui nous ont réunis et sur lesquelles nous sommes très fermes. Il est évident qu'il n'est pas question de recruter tous les homosexuels sans distinction. Que nous ayons parmi nous, de même qu'il y a des hétéroflics, des homoflics réformistes, pas question. L'adaptation, nous n'en voulons pas. Cela vous sous-entendrait que nous pensions que la société bourgeoise peut admettre l'homosexualité. Nous ne le croyons pas, pas plus d'ailleurs qu'elle admette la sexualité libre, quelle qu'elle soit. Tout au plus, admettra-t-elle à la rigueur la pornographie. En tout cas, la pornographie, c'est toujours pareil. C'est pour les bourgeois pleins de fric, et surtout, c'est pour les hommes. Bon,
Donc rien pour nous. Nous ne voulons pas faire un nouveau ghetto non plus. Faire un rassemblement de troupeaux pour nous serrer entre nous. Nous voulons agir. D'où, justement, notre participation au défilé du 1er mai.
Un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. C'est-à-dire le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise. Alors, je ne vois pas du tout comment ça pourrait être générateur de plaisir, l'idée de se dire qu'on est inférieur en particulier. Selon moi, ça peut être générateur que de gêne ou de frigidité. Et de même, l'idée d'être supérieur, c'est vraiment le sentiment bourgeois le plus réactionnaire qui d'ailleurs te cache tous les plaisirs que tu peux... Parce que l'idée de supériorité était liée au rôle de mâle. Alors en particulier pour les hommes, il est effectif que la plupart des hommes ne sont pas homosexuels, précisément parce qu'ils auraient l'impression qu'ils remettraient en question leur supériorité de mâle, c'est-à-dire s'ils se faisaient baiser. Eh bien précisément, ce que nous on essaye de montrer, ce qu'on montre pratiquement, c'est qu'on éprouve un très grand plaisir aussi bien à se faire baiser qu'à baiser, que ça n'est pas que, qu'on veut détruire les rôles en tant qu'ils entraînent des relations de pouvoir, que pour détruire ces relations de pouvoir, il va falloir qu'on commence par introduire des relations de pouvoir avec tous les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les hétéros, dont un certain nombre d'entre eux sont des hétéros flics, au sens où ils veulent imposer leur morale à tout le monde. Mais je pense pas du tout que les relations sexuelles soient nécessairement des relations de pouvoir, les relations d'amour soient nécessairement des relations de pouvoir et d'oppression, ça me paraît vraiment une théorie complètement réactionnaire.
Moi, il me plaît de me foutre à plat et de me faire baiser. Bon, ça n'est pas encore... je suis pas libéré encore, justement, le phare, j'espère, va m'en libérer. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas à mentir, je ne suis pas libéré à ce niveau-là. Mais je sais très bien que ce rôle, je peux me l'appliquer. Parce que j'ai chez moi un désir en creux autant qu'un désir en plein. Et ce n'est pas la société qui a à me l'imposer. C'est la société m'a imposé d'être un fort à bras, mais j'en ai ras-le-bol d'être un fier à bras. C'est tout. Parce que mon rôle sexuel, il n'est pas applicable sur le rôle social. C'est pas vrai.
Le militant dans un certain nombre d'organisations, la fille avec qui je vivais est entrée au MLF. Et c'est à partir du moment où elle est entrée au MLF où il y a eu une remise complète en question de moi-même. Tu comprends bien que le problème du centralisme démocratique, le problème du parti révolutionnaire et tout ça, c'est dépassé depuis très longtemps chez un certain nombre de personnes qui arrivent justement au contact de camarades, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont déjà arrivé à dépasser tout ce stade de la débilité gauchiste, qu'on appellera la débilité gauchiste, de pouvoir enfin se remettre en question d'une autre manière. Et ça, c'est très difficile. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire d'une part tout seul. Ce sont des choses aussi qu'on ne peut pas faire d'une manière, comme tu dirais, naturelle. Parce que la nature, en général, elle n'est pas descendue comme ça du ciel. Elle est faite parce qu'il y a des rapports de production, parce qu'il y a des rapports dominants-dominés à l'intérieur du couple, etc. Et ces trucs-là, crois-moi, ça peut ronger des personnes pendant un certain temps. Et ça peut être détruit. Et crois-moi, la manif du 1er mai, ça faisait un an et demi que j'allais pas à une manifestation. Ben, s'il n'y avait pas le phare, j'aurais pas su où me mettre. Et pourtant, je ne suis pas homosexuel au sens où tu pourrais l'entendre. Je peux assumer des rapports homosexuels. Je crois que c'est déjà un premier pas. Je crois que je sais déjà en moi-même que j'ai un fond de conscience, de sexualité et d'amour même, qui est homosexuel. Je le sais parce que j'ai eu des expériences dans ma plus petite jeunesse, disons, de rapports homosexuels, et que ces rapports, je les ai complètement frustrés au moment où j'ai commencé à connaître des femmes. Bon, ensuite, pendant 10 ans de ma vie, j'ai continué à coucher d'une manière tout ce qu'il y a de plus bourgeoise et tout ce qu'il y a de plus réactionnaire avec des femmes. Au moment où j'ai commencé à connaître les copains du phare que j'ai connus bien après les copines du MLF, ben j'ai trouvé une place. J'ai trouvé une place, effectivement, dans cette manif. Parce que j'y serais pas allé s'il n'y avait pas eu le phare. Bon, alors comment aussi je l'ai ressenti, je crois que c'est un peu important. S'il y a d'autres copains qui sont là, qui étaient à la manif, et qui ont défilé avec le phare ou avec le MLF, je crois que c'est la première fois qu'on s'est un peu marré. Parce que vraiment, c'était horrible à côté. Hein.
Les types qui nous ont dit mais vous êtes pas homosexuel, il y a des femmes avec vous pendant la manif. Et les lesbiennes étant ici ramenées totalement encore plus au rôle d'objet, parce qu'elles étaient avec nous, on n'était pas homosexuels.
C'est la bourgeoisie pour s'assurer aussi à donner un rôle aux homosexuels. Il y a le mythe de l'homosexuel qui est.
Enfin, je me rappelle l'autre jour quand on allait distribuer des tracts avec le phare devant une boîte, il y a des gars qui ont vu des barbus distribuer des tracts homosexuels et qui ont dit oh, vous n'êtes pas homosexuel, vous, c'est pas possible. Hein? C'est aberrant parce que il y a vraiment le mythe de l'homosexuel qui est assimilé justement au rôle social, c'est-à-dire l'homme faible, l'homme qui n'est pas l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est en dehors de la classe des forts. La notion de force et de faiblesse, c'est aberrant, quoi. Enfin, des réactions comme ça, ça prouve que le problème est vachement aigu, quoi. Homosexuel, comme réclamer l'avortement, par exemple, pour les femmes, c'est forcément révolutionnaire. Ça peut être récupéré, c'est vrai, comme en Allemagne, si on peut appeler ça de la récupération. Mais c'est forcément révolutionnaire dans le sens où ça remet en cause complètement les valeurs morales bourgeoises qui sont le fondement de la société, c'est-à-dire la famille, la production des enfants à la chaîne, etc. etc. C'est tout un processus, et être homosexuel, c'est être forcément révolutionnaire.
Bon, dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation, qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt, on ne fait pourtant de tort à personne, si on est un gars et qu'on aime. Mais les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons. Vive la révolution,
au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution. I lost my heart to your eyes, in your eyes, my heart is dancing, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour. My soul to your eyes, in your eyes, my soul is dancing. Puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour. La 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 la. In your eyes, my heart is dancing. In your eyes, my soul is dancing. With your heart, my eyes are dancing. With your soul, my eyes are dancing. Puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour. La 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 la.
On revient un peu sur le phare et les liens de Guérin avec le phare. Je vous lis un texte rapide sur cette question-là. Si Guérin se sentait prisonnier de l'esprit d'Arcadie, la jeunesse et le dynamisme du phare et de son rapport contre la normalité paru en 1971 lui apportent de nouvelles sources d'inspiration pour sa réflexion sur la révolution sexuelle. L'engagement au phare se double chez lui d'une réflexion politique sur la culture du spontanéisme révolutionnaire. Il apprécie la rhétorique activiste du phare, qui politise peu à peu la notion d'homosexualité. Guérin accompagne donc l'investissement de l'espace public par les problématiques homosexuelles, à travers la reprise d'une pensée mai 68, faite de marxisme psychanalytique, de gauchisme révolutionnaire et imprégnée d'une philosophie de la révolte du désir. Le nouvel univers intellectuel dans lequel gravitent les mouvements homosexuels repose sur les thèmes développés par un certain nombre d'auteurs anciens et réappropriés, comme William Reich, qui décrit l'ordre social patriarcal comme un mécanisme à produire de la frustration sexuelle, ou contemporain, conception du désir créateur transcendant les fausses identités du sujet et de l'objet chez Deleuze et Guattari. Guy Hockenheim, qui a fortement influencé la pensée du phare, définit l'homosexualité comme une fabrication du monde social, comme une catégorie psychopolicière servant à canaliser les énergies négatives d'une société sur une figure clairement délimitée puis dépréciée. Il voit dans la pratique du désir une manière de créer de nouvelles identités sexuelles, puis de nouvelles identités sociales. À travers ce processus de politisation auquel participe Guérin, la revendication homosexuelle s'inscrit dans un courant global de pensée visant à exploiter une nouvelle dimensionnalité de l'existence humaine, c'est-à-dire à substituer à la figure du citoyen et du sujet politique celle du sujet sexuel avec ses désirs et ses passions, et adapter des cadres politiques sociaux à cette nouvelle définition de l'homme dans la cité. L'homosexuel, de victime sociale, cherchant à dénoncer son oppression et à démontrer sa normalité, devient sujet révolutionnaire, porteur d'un projet politique visant à rapporter l'ensemble de relations de pouvoir dans une société donnée aux rapports sociaux de sexe, pour ensuite bouleverser en profondeur ces rapports. L'énergie sexuelle est décrite comme une force révolutionnaire. L'impétuosité formidable de l'appétit charnel est capable de renverser des montagnes, et elle permet de créer un homme nouveau, libéré des étiquettes réductrices du comportement sexuel et des chaînes de l'asservissement. Ne sacrifions pas la révolution sociale à la révolution sexuelle, que l'une épaule l'autre, baisons en même temps que nous militons, car en définitive, les deux révolutions ne sont qu'une seule et même, et chacune à sa façon se propose d'affranchir l'homme. Pendant les journées révolutionnaires de mai 68, en France, les étudiants écrivaient sur les murs « Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour ». Mais Guérin conserve toujours son originalité, qui est de définir l'homosexualité comme une pratique non exclusive, c'est-à-dire en la rabattant sur une bisexualité générique. Or, la radicalisation du discours de libération de l'homosexualité, qui lui est contemporaine, avec le phare puis avec le groupe de libération homosexuelle à partir de 1974, et qui risque de réifier l'identité homosexuelle en en faisant un projet sociopolitique, a le défaut d'essentialiser la pratique sexuelle en l'élevant au rang d'une identité politique, et donc de la fixer définitivement en tant que marqueur identitaire, et non plus comme modalité d'un désir non déterminé. Tout en saluant les efforts des militants, il rappelle régulièrement dans ses écrits, comme dans sa correspondance personnelle, que dans sa conception du désir sexuel, l'homosexualité n'est qu'un moment dans le déploiement du dispositif libidinal, qui demeure informe et n'admet aucune spécification monosexuelle. Néanmoins, à la fin des années 70 et le début des années 80 marquent pour Guérin une étape de déception vis-à-vis du mouvement homosexuel. En effet, il critique, comme Guy Hockenheim, au même moment, dans La dérive homosexuelle, la ghettoisation du monde homosexuel, sur lequel des frontières symboliques, héritières de la retombée de la politisation, se sont maintenant abattues en lui donnant une forme communautaire. L'homosexualité définie comme une identité subversive et comme moyen de transformer une société est devenue, par l'action des multiples mouvements militants qui s'en revendiquaient, une fin en soi. Le discours homosexuel militant a réifié l'homosexualité en en faisant un objet de débat et de revendication sur la place publique. Guérin fustige également les débuts de la commercialisation du monde gay. Prolongeant ses réflexions sur la nature et le fondement de l'homosexualité, notamment dans Homosexualité et Révolution, Guérin se réfugie dans ses souvenirs des années 20 et 30, où selon lui, les identités homosexuelles et hétérosexuelles étaient loin d'être essentielles, exclusives et réifiées. Au final, Daniel Guérin a accompagné l'essor d'un discours militant homosexuel, de la période de la répression et de l'invisibilité à celle de la politisation et la construction d'un nouveau type de discours identitaire. Dénonçant les amalgames du discours social, mais critiquant l'identité homosexuelle définie par le discours militant des années 80, son exemple montre que les identités ne sont pas innées, mais résultent d'une construction stratégique et historique. En ce sens, elles sont profondément politiques. Voilà, c'est pour conclure un peu... Et pour aussi faire un peu la part des choses par rapport à son engagement au sein du phare. C'est à peu près ce qu'on avait à dire sur notre ami Daniel Guérin et sa position.
On peut terminer sur quelques passages d'une interview qu'il a donnée pour Masque. Une interview, je ne sais pas de quand elle date.
Masque, c'est une revue qui se dit Revue des homosexualités qui paraît en 1979. Donc là, c'est le premier numéro que tu as et dans lequel Daniel Guérin effectivement fait une interview.
Et du coup, on lui demande, dans les années 30, comment vivais-tu en tant qu'homosexuel, tes rapports avec le mouvement ouvrier, syndical et politique ? Tu parles dans ton dernier livre d'autorépression constante. Et il répond, il y avait en moi deux hommes et deux vies. Dans l'une, j'étais exclusivement militant et dans l'autre, j'étais, suivant les périodes, plus ou moins tourmenté par mon homosexualité. Mais il n'y avait aucun lien entre les deux moi-même. Je me suis bien gardé d'aborder la question devant des militants ouvriers. La seule fois peut-être, c'était avec Maurice Chambellan, qui était le disciple de Pierre Monat qui collaborait au journal Le Cri du Peuple. Un jour, j'ai hasardé quelques mots sur Marcel Proust en parlant de mon admiration pour son œuvre. Chambellan s'est renfrogné en disant que c'était une œuvre frivole, homosexuelle, tirée par les cheveux. J'étais tellement interloqué que je n'ai même pas pu lui répondre. Ce fut sans doute le seul cas où j'ai effleuré la question. Si d'autres camarades militants vivaient des problèmes semblables, c'était beaucoup plus tard que je l'ai su. Il n'y avait vraiment aucune interférence entre mes deux vies. Ensuite, on lui demande, est-ce que cette attitude de devoir dissimuler sans cesse son homosexualité, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui, ce qu'il décrit là sur le mouvement ouvrier ? Et il répond, les mœurs ont évolué, les choses ne sont plus exactement ce qu'elles étaient. Il n'en reste pas moins que respectabilité révolutionnaire est une notion qui existe toujours, liée à la lutte sociale, qui est une lutte implacable où il ne faut pas donner à l'adversaire de classe des signes de faiblesse. Il est donc un peu risqué de lui fournir des armes contre soi-même et le mouvement auquel on appartient. La notion est donc toujours aussi vraie. Aujourd'hui, certes, la compréhension, l'indulgence dans certains milieux révolutionnaires se sont un peu affinées. Mais vous savez mieux que moi à quel point cette évolution se trouve limitée. Et il finit par ce petit passage également, où il explique qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a décidé d'assumer son homosexualité. Et il dit « À un moment de ma vie, j'en ai eu assez d'avoir à m'imposer une personnalité double, alors que je suis naturellement directe et spontanée. J'avais besoin de crier sur les toits ce que je ressentais, je n'en éprouvais aucune gêne, au contraire un profond soulagement. Il fallait tôt ou tard que cela fût dit. Le silence m'était intolérable. En milieu militant, j'étais sans cesse contraint au mensonge. » Et voilà, et je trouvais que c'était bien de terminer là-dessus, parce qu'il y a quand même un enjeu pour tout le monde, à ne pas vivre ce truc de double vie qui est incarné dans plein de scènes sociales tout à fait normales, quoi, qui est que on a une personnalité publique, sociale, respectable, et puis on a ce qu'on est chez soi en rentrant à la maison, et que la grande révolution des années qu'a traversé Daniel Guérin, c'est de dire que il fallait cesser en fait avec cette schizophrénie sociale qui fait qu'on ne peut jamais assumer le fond de nos désirs et ce qu'on est, etc. Et que du coup, il fallait réussir à incarner et à assumer tout ce qu'on portait, y compris dans les milieux révolutionnaires qui sont pas forcément, enfin pas toujours plus ouverts sur certaines questions, surtout les plus intimes, quoi.
Et donc de ramener au centre et poser sur la table ces questions-là pour pouvoir à un moment pouvoir les vivre mieux et les discuter avec ses proches, quoi. C'est un peu ça qu'il dit, lui, que du moment où il politise cette question-là, où tout d'un coup il la met au jour avec d'autres personnes qui s'en emparent de cette manière-là, tout d'un coup ça devient un sujet politique, un sujet dont on peut débattre et dont on peut se sentir d'assumer ça, quoi, pleinement.
Voilà, ce sera la leçon du jour. Le premier pas de la politique, c'est celui de partir de soi-même et d'assumer ce qu'on ressent, quoi.
Ouais, c'est ça, et de ses désirs, quoi. Voilà, c'était un peu ça qu'on avait envie de transmettre de Daniel Guérin, en tout cas de ce qu'il avait légué à travers son autobiographie. Effectivement, à la fin de sa vie, il dit que c'est ça qu'il a le plus, enfin qui sent qui est le plus nécessaire de léguer. Donc il meurt en 88, à 84 ans. Et voilà, il lègue cette autobiographie que on vous invite de lire. Donc c'est à la Fabrique. Ça s'appelle Autobiographie d'une jeunesse, Daniel Guérin. Et c'est assez joyeux, assez jouissif.
Voilà, et les extraits audio étaient de Carole Roussopoulos sur Le Phare. Il y a des extraits disponibles sur Internet. Et sinon, il faut chercher. C'est difficile à trouver.
Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur tvnr.noblogs.org. D'ici là, à bientôt.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà. Salut.